Suite du chapitre 12. La comtesse Sabine avait voulu que le contrat de sa fille fût signé un mardi, pour inaugurer par une fête l'hôtel restauré, où les peintures séchaient à peine. 500 invitations étaient lancées, un peu dans tous les mondes. Le matin encore, les tapissiers clouaient des tentures. Et au moment d'allumer les lustres, vers 9 heures, l'architecte, accompagné de la comtesse qui se passionnait, donnait les derniers ordres. C'était une de ces fêtes de printemps, d'un charme si tendre. Les chaudes soirées de juin avaient permis d'ouvrir les deux portes du grand salon et de prolonger le bal jusque sur le sable du jardin. Quand les premiers invités arrivèrent, accueillis à la porte par le comte et la comtesse, ils eurent un éblouissement. Il fallait se rappeler le salon d'autrefois, où passait le souvenir glacial de la comtesse Muffa, cette pièce antique, toute pleine d'une sévérité dévote, avec son meuble empire d'acajou massif, ses tentures de velours jaune, son plafond verdâtre, trempé d'humidité. Maintenant, dès l'entrée, dans le vestibule, des mosaïques rehaussées d'or se moiraient sous de hauts candélabres, tandis que l'escalier de marbre déroulait sa rampe aux fines ciselures. Puis, le salon resplendissait, drapé de velours de Gênes, tendu au plafond d'une vaste décoration de bouchers que l'architecte avait payé 100 000 francs à la vente du château de Dampierre. Les lustres, les appliques de cristal allumaient là un luxe de glace et de meubles précieux. On eût dit que la chaise longue de Sabine, ce siège unique de soie rouge dont la mollesse autrefois étonnait, s'était multipliée, élargie, jusqu'à emplir l'hôtel entier d'une voluptueuse paresse, d'une jouissance aiguë qui brûlait avec la violence des feux tardifs. Déjà l'on dansait. L'orchestre, placé dans le jardin, devant une des fenêtres ouvertes, jouait une valse dont le rythme souple arrivait adouci, envolé au plein air. Et le jardin s'élargissait dans une ombre transparente éclairée de lanternes vénitiennes, avec une tente de pourpre plantée sur le bord d'une pelouse où était installé un buffet. Cette valse, justement la valse canaille de la blonde Vénus qui avait le rire d'une polissonnerie, pénétrait le vieil hôtel d'une onde sonore, d'un frisson chauffant les murs. Il semblait que ce fût quelque vent de la chair venu de la rue, balayant tout un âge mort dans la hautaine demeure, emportant le passé des Muffa, un siècle d'honneur et de foi endormi sous les plafonds. Cependant, près de la cheminée, à leur place habituelle, les vieux amis de la mère du comte se réfugiaient, dépaysés, éblouis. Ils formaient un petit groupe au milieu de la cohue peu à peu envahissante. Madame du Jonquois, ne reconnaissant plus les pièces, avait traversé la salle à manger. Madame Chantereau regardait d'un air stupéfait le jardin, qui lui paraissait immense. Bientôt, à voix basse, ce fut dans ce coin toutes sortes de réflexions amères. « Dites donc !» murmurait Madame Chantereau. « Si la comtesse revenait, hein, vous imaginez-vous son entrée au milieu de ce monde ?» Et tout cet or et ce vacarme, c'est scandaleux.
Sabine est folle, répondait Madame du Jonquois. L'avez-vous vue à la porte? Tenez, on l'aperçoit d'ici. Elle a tous ses diamants.
Un instant, elles se levèrent pour examiner de loin la comtesse et le comte. Sabine, en toilette blanche, garnie d'un point d'Angleterre merveilleux, était triomphante de beauté, jeune, gaie, avec une pointe d'ivresse dans son continuel sourire. Près d'elle, Muffa, vieilli, un peu pâle, souriait aussi, de son air calme et digne.
« Et pensez qu'il était le maître !» reprit Madame Chantereau. « Que pas un petit banc ne serait entré sans qu'il l'eût permis.
Ah bien, elle a changé ça. Il est chez elle à cette heure.
Vous souvenez-vous, lorsqu'elle ne voulait pas refaire son salon? c'est l'autel qu'elle a refait. »
Mais elles se turent, Madame de chez elle entrait, suivie d'une bande de jeunes messieurs, s'extasiant, approuvant avec de légères exclamations. « Oh, délicieux! Exquis! C'est d'un goût !» Et elle leur jeta de loin. « Que disais-je? Il n'y a rien comme ces vieilles masures lorsqu'on les arrange. Ça vous prend un chic, n'est-ce pas? Tout à fait grand siècle! Enfin, elle peut recevoir !»
Les deux vieilles dames s'étaient assises de nouveau, baissant la voix, causant du mariage qui étonnait bien des gens. Estelle venait de passer, en robe de soie rose, toujours maigre et plate, avec sa face muette de vierge. Elle avait accepté d'aguener paisiblement. Elle ne témoignait ni joie ni tristesse, aussi froide, aussi blanche, que les soirs d'hiver où elle mettait des bûches au feu. Toute cette fête donnée pour elle, ces lumières, ces fleurs, cette musique, la laissaient sans une émotion.
« Un aventurier !» disait Madame du Jonquois. « Moi, je ne l'ai jamais vu. »«
Prenez garde, le voici !» murmura Madame Chantereau.
Daguenay, qui avait aperçu Madame Hugon avec ses fils, s'était empressé de lui offrir le bras. Et il riait. Il lui témoignait une effusion de tendresse, comme si elle eût travaillé pour une part à son coup de fortune.
« Je vous remercie, » dit-elle en s'asseyant près de la cheminée. « Voyez-vous, c'est mon ancien coin. »«
Vous le connaissez ?» demanda Madame du Jonquois lorsque Daguenay fut parti.
« Certainement, un charmant jeune homme. Georges l'aime beaucoup.
Oh, une famille des plus honorables !»
Et la bonne dame le défendit contre une sourde hostilité qu'elle sentait. Son père, très estimé de Louis-Philippe, avait occupé jusqu'à sa mort une préfecture. Lui, s'était un peu dissipé, peut-être. On le prétendait ruiné. En tout cas, un de ses oncles, un grand propriétaire, devait lui laisser sa fortune. Mais ces dames hochaient la tête pendant que Madame Hugon, gênée elle-même, revenait toujours à l'honorabilité de la famille. Elle était très lasse, elle se plaignit de ses jambes. Depuis un mois, elle habitait sa maison de la rue Richelieu, pour un tas d'affaires, disait-elle. Une ombre de tristesse voilait son maternel sourire.
« N'importe, » conclut Madame Chantereau. « Estelle aurait pu prétendre à beaucoup mieux. »
Il y eut une fanfare. C'était un quadrille, le monde refluait aux deux côtés du salon, pour laisser la place libre. Des robes claires passaient, se mêlaient, au milieu des taches sombres des habits, tandis que la grande lumière mettait sur la houle des têtes des éclairs de bijoux, un frémissement de plumes blanches, une floraison de lilas et de roses. Il faisait très chaud. Un parfum pénétrant montait de ces tulles légers, de ces chiffonnages de satin et de soie, où les épaules nues pâlissaient sous les notes vives de l'orchestre. Par les portes ouvertes, au fond des pièces voisines, on voyait des rangées de femmes assises, avec l'éclat discret de leurs sourires, une lueur des yeux, une moue de la bouche, que battait le souffle des éventails. Et des invités arrivaient toujours. Un valet lançait des noms, tandis que, lentement, au milieu des groupes, des messieurs tâchaient de caser des dames, embarrassées à leurs bras, se haussant, cherchant de loin un fauteuil libre. Mais l'hôtel s'emplissait, les jupes se tassaient avec un petit bruit. Il y avait des coins où une nappe de dentelle, de nœuds, de poufs, bouchait le passage, dans la résignation polie de toutes, faites assez cohues et blouissantes, gardant leur grâce. Cependant, au fond du jardin, sous la lueur rosée des lanternes vénitiennes, des couples s'enfonçaient, échappés à l'étouffement du grand salon, des ombres de robes filaient au bord de la pelouse, comme rythmées par la musique du quadrille, qui prenait, derrière les arbres, une douceur lointaine. Stener venait de rencontrer là Foucarmont et la Faloise, buvant un verre de champagne devant le buffet. « C'est pourri de chic !» disait la Faloise en examinant la tente de pourpre tenue sur des lances dorées. « On se croirait à la foire au pain d'épices. Hein ? C'est ça, la foire au pain d'épices. » Maintenant, il affectait une blague continuelle, posant pour le jeune homme ayant abusé de tout et ne trouvant plus rien digne d'être pris au sérieux. « C'est ce pauvre vendeuvre qui serait surpris s'il revenait, » murmura Foucarmont. « Vous vous souvenez quand il crevait d'ennui là-bas devant la cheminée ? Fichtre, il ne fallait pas rire. « Vendeuvre, laissez donc un raté !» reprit dédaigneusement la Faloise. « En voilà un qui s'est mis le doigt dans l'œil, s'il a cru nous épater avec son rôtissage. Personne n'en parle seulement plus. Rasé, fini, enterré, vendeuvre, à un autre. » Puis, comme Steiner leur serrait la main, « Vous savez, Nana vient d'arriver. Oh, une entrée, mes enfants, quelque chose de faramineux. D'abord, elle a embrassé la comtesse. Ensuite, quand les enfants se sont approchés, elle les a bénis en disant à Daguenay, « Écoute, Paul, si tu lui fais des queues, c'est à moi que tu auras affaire. » Comment, vous n'avez pas vu ça? Oh, un chic, un succès! Les deux autres l'écoutaient, bouche béante. Enfin, ils se mirent à rire. Lui, enchanté, se trouvait très fort. Vous avez cru que c'était arrivé? Dame, puisque c'est Nana qui a fait le mariage. D'ailleurs, elle est de la famille. Les fils Hugon passaient. Philippe le fit taire. Alors, entre hommes, on causa du mariage. Georges se fâcha contre la Faloise qui racontait l'histoire. Nana avait bien collé à Muffa un de ses anciens pour gendre. Seulement, il était faux que la veille encore, elle eût couché avec Daguenay. Foucarmont se permit de hausser les épaules. « Savait-on jamais quand Nana couchait avec quelqu'un ?» Mais Georges, emporté, répondit par un « Moi, monsieur, je le sais !» qui les mit tous en gaieté. Enfin, comme le dit Steiner, ça faisait toujours une drôle de cuisine. Peu à peu, on envahissait le buffet. Ils cédèrent la place sans se quitter. La Faloise regardait les femmes effrontément, comme s'il s'était cru à Mabille. Au fond d'une allée, ce fut une surprise. La bande trouva M. Venot en grande conférence avec Daguenay. Et des plaisanteries faciles les égayèrent. Il le confessait. Il lui donnait des conseils pour la première nuit. Puis, ils revinrent devant une des portes du salon où une polka emportait des couples dans un balancement qui mettait un sillage au milieu des hommes restés debout. Sous les souffles venus du dehors, les bougies brûlaient très hautes. Quand une robe passait, avec les légers claquements de la cadence, elle rafraîchissait d'un petit coup de vent la chaleur brasillante tombant des lustres. « Fichtre, ils n'ont pas froid là-dedans !» murmura la Faloise. Leurs yeux clignaient au retour des ombres mystérieuses du jardin. Et ils se montrèrent le marquis de Choire, isolé, dominant de sa haute taille les épaules nues qui l'entouraient. Il avait une face pâle, très sévère, un air de hautaine dignité, sous sa couronne de rares cheveux blancs. Scandalisé par la conduite du comte Muffa, il venait de rompre publiquement. Il affectait de ne plus mettre les pieds dans l'hôtel. S'il avait consenti à y paraître ce soir-là, c'était sur les instances de sa petite fille, dont il désapprouvait d'ailleurs le mariage, avec des paroles indignées contre la désorganisation des classes dirigeantes par les honteux compromis de la débauche moderne. « Ah, c'est la fin !» disait près de la cheminée Madame du Jonquois à l'oreille de Madame Chantereau. « Cette fille a ensorcelé ce malheureux. Nous qui l'avons connu si croyant, si noble. « Il paraît qu'il se ruine !» continua Madame Chantereau. « Mon mari a eu entre les mains un billet. Il vit maintenant dans cet hôtel de l'avenue de Villiers. Tout Paris en cause.
Mon Dieu, je n'excuse pas Sabine. Avouez pourtant qu'il lui donne bien des sujets de plainte. Eh, dame, si elle jette aussi l'argent par les fenêtres.
Elle n'y jette pas que l'argent, interrompit l'autre. Enfin, à deux, ils iront plus vite. Une noyade dans la boue, ma chère.
Mais une voix douce les interrompit. C'était Monsieur Venot. Il était venu s'asseoir derrière elle, comme désireux de disparaître. Et, se penchant, il murmurait.
« Pourquoi désespérer? Dieu se manifeste lorsque tout semble perdu. »
Lui assistait paisiblement à la débâcle de cette maison qu'il gouvernait jadis. Depuis son séjour aux Fondettes, il laissait l'affolement grandir, avec la conscience très nette de son impuissance. Il avait tout accepté, la passion enragée du comte pour Nana, la présence de Fauchery près de la comtesse, même le mariage d'Estelle et de Daguenay. Qu'importaient ces choses? Et il se montrait plus souple, plus mystérieux, nourrissant l'idée de s'emparer du jeune ménage comme du ménage désuni, sachant bien que les grands désordres jettent aux grandes dévotions. La Providence aurait son heure.
« Notre ami, continua-t-il à voix basse, est toujours animé des meilleurs sentiments religieux. Il m'en a donné les preuves les plus douces. »
« Eh bien, dit madame du Jonquois, il devrait d'abord se remettre avec sa femme. »
« Sans doute. Justement, j'ai l'espoir que cette réconciliation ne tardera pas. »
Alors, les deux vieilles dames le questionnèrent, mais il redevint très humble. Il fallait laisser agir le ciel. Tout son désir, en rapprochant le comte et la comtesse, était d'éviter un scandale public. La religion tolérait bien des faiblesses quand on gardait les convenances.
« Enfin, reprit madame du Jonquois. « Vous auriez dû empêcher ce mariage avec cet aventurier. »
Le petit vieillard avait pris un air de profond étonnement.
« Vous vous trompez. Monsieur Daguenay est un jeune homme du plus grand mérite. Je connais ses idées. Il veut faire oublier des erreurs de jeunesse. Estelle le ramènera. Soyez-en sûr. »
« Oh, Estelle !» murmura dédaigneusement madame Chantereau. « Je crois la chère petite incapable d'une volonté. Elle est si insignifiante. »
Cette opinion fit sourire M. Venot. D'ailleurs, il ne s'expliqua pas sur la jeune mariée. Fermant les paupières, comme pour se désintéresser, il se perdit de nouveau derrière les jupes, dans son coin. Madame Hugon, au milieu de sa lassitude distraite, avait saisi quelques mots. Elle intervint. Elle conclut de son air de tolérance en s'adressant au marquis de Chouart qui la saluait.
« Ces dames sont trop sévères. L'existence est si mauvaise pour tout le monde. N'est-ce pas, mon ami? On doit pardonner beaucoup aux autres lorsqu'on veut être soi-même digne de pardon. »
Le marquis resta quelques secondes gêné, craignant une allusion. Mais la bonne dame avait un si triste sourire qu'il se remit tout de suite, en disant
« Non, pas de pardon pour certaines fautes. C'est avec ces complaisances qu'une société va aux abîmes. »
Le bal s'était encore animé. Un nouveau quadrille donnait au plancher du salon un léger balancement, comme si la vieille demeure eût fléchi sous le branle de la fête. Par moments, dans la pâleur brouillée des têtes, se détachait un visage de femme, emporté par la danse, aux yeux brillants, aux lèvres entr'ouvertes, avec le coup du lustre sur la peau blanche. Madame du Jonquois déclarait qu'il n'y avait pas de bon sens. C'était une folie d'empiler 500 personnes dans un appartement où l'on aurait tenu 200 à peine. Alors, pourquoi ne pas signer le contrat sur la place du Carrousel ?
« Effet des nouvelles mœurs, » disait madame Chantereau.
« Jadis, de telles solennités se passaient en famille. Aujourd'hui, il fallait des cohues, la rue entrant librement, un écrasement sans lequel la soirée semblait froide. On affichait son luxe, on introduisait chez soi l'écume de Paris.
et rien de plus naturel si des promiscuités pareilles pourrissaient ensuite le foyer. Ces dames se plaignaient de ne pas reconnaître plus de 50 personnes. D'où venait tout ça? Des jeunes filles décolletées montraient leurs épaules, une femme avait un poignard d'or planté dans son chignon, tandis qu'une broderie de perles de jais l'habillait d'une cotte de maille. On en suivait une autre en souriant, tellement la hardiesse de ses jupes collantes semblait singulière. Tout le luxe de cette fin d'hiver était là, le monde du plaisir avec ses tolérances, ce qu'une maîtresse de maison ramasse parmi ses liaisons d'un jour. Une société où se coudoyaient de grands noms et de grandes hontes dans le même appétit de jouissance. La chaleur augmentait. Le quadrille déroulait la symétrie cadencée de ses figures au milieu des salons trop pleins. « Très chic, la comtesse !» reprit la Faloise à la porte du jardin. « Elle a 10 ans de moins que sa fille. » « À propos, Foucarmont, vous allez nous dire ça. Vendeuvre, pariez qu'elle n'avait pas de cuisses. » Cette pose au cynisme ennuyait ces messieurs. Foucarmont se contenta de répondre « Interrogez votre cousin, mon cher. Justement, le voilà. »« Tiens, c'est une idée !» cria la Faloise. « Je parie 10 louis qu'elle a des cuisses. » Fauchery arrivait, en effet. En habitué de la maison, il avait fait le tour par la salle à manger pour éviter l'encombrement des portes. Repris par Rose, au commencement de l'hiver, il se partageait entre la chanteuse et la comtesse, très las, ne sachant comment lâcher l'une des deux. Sabine flattait sa vanité, mais Rose l'amusait davantage. C'était d'ailleurs, de la part de cette dernière, une passion vraie, une tendresse d'une fidélité conjugale, qui désolait Mignon. Écoute, un renseignement, répétait la Faloise en serrant le bras de son cousin. Tu vois cette dame en soie blanche? Depuis que son héritage lui donnait un aplomb insolent, il affectait de blaguer Fauchery, ayant une ancienne rancune à satisfaire, voulant se venger des railleries d'autrefois lorsqu'il débarquait de sa province. Oui, cette dame qui a des dentelles. Le journaliste se haussait, ne comprenant pas encore. « La comtesse ? » finit-il par dire. « Juste, mon bon. J'ai parié 10 louis. A-t-elle des cuisses ?» Et il se mit à rire, enchanté d'avoir mouché tout de même ce gaillard qui l'épatait si fort jadis quand il lui demandait si la comtesse ne couchait avec personne. Mais Fauchery, sans s'étonner le moins du monde, le regardait fixement. « Idiot, va !» lâcha-t-il enfin en haussant les épaules. Puis il distribua des poignées de main à ces messieurs, pendant que la Faloise, décontenancée, n'était plus bien sûre d'avoir dit quelque chose de drôle. On causa. Depuis les courses, le banquier et Foucarmont faisaient partie de la bande, avenue de Villiers. Nana allait beaucoup mieux, le comte chaque soir venait prendre de ses nouvelles. Cependant, Fauchery, qui écoutait, semblait préoccupé. Le matin, dans une querelle, Rose lui avait carrément avoué l'envoi de la lettre. Oui, il pouvait se présenter chez sa dame du monde, il serait bien reçu. Après de longues hésitations, il était venu quand même, par courage. Mais l'imbécile plaisanterie de la Faloise le bouleversait, sous son apparente tranquillité. « Qu'avez-vous ? » lui demanda Philippe. « Vous paraissez souffrant. »« Moi, pas du tout. J'ai travaillé, c'est pourquoi j'arrive si tard. » Puis, froidement, avec un de ces héroïsmes ignorés qui dénouent les vulgaires tragédies de l'existence, « Je n'ai pourtant pas salué les maîtres de la maison. Il faut être poli. » Même, il osa plaisanter en se tournant vers la Faloise. « N'est-ce pas, idiot ?» Et il s'ouvrit un passage au milieu de la foule. La voix pleine du valet ne jetait plus des noms à la volée. Pourtant, près de la porte, le comte et la comtesse causaient encore, retenus par des dames qui entraient. Enfin, il les rejoignit, pendant que ces messieurs, restés sur le perron du jardin, se haussaient pour voir la scène. Nana devait avoir bavardé.
« Le comte ne l'a pas aperçu, » murmura Georges. « Attention, il se retourne. Là, ça y est !»
L'orchestre venait de reprendre la valse de la blonde Vénus. D'abord, Fauchery avait salué la comtesse, qui souriait toujours, dans une sérénité ravie. Puis, il était resté un instant immobile, derrière le dos du comte, à attendre, très calme. Le comte, cette nuit-là, gardait sa hautaine gravité, le port de tête officiel du grand dignitaire. Lorsqu'il abaissa enfin les yeux sur le journaliste, il exagéra encore son attitude majestueuse. Pendant quelques secondes, les deux hommes se regardèrent. Et ce fut Fauchery qui, le premier, tendit la main. Muffa donna la sienne. Leurs mains étaient l'une dans l'autre, la comtesse Sabine souriait devant eux, les cils baissés, tandis que la valse, continuellement, déroulait son rythme de polissonnerie railleuse.
« Mais ça va tout seul !» dit Stenner. « Est-ce que leurs mains sont collées ?»
demanda Foucarmont, surpris de la longueur de l'étreinte. Un invincible souvenir amenait une lueur rose aux joues pâles de Fauchery. Il revoyait le magasin des accessoires, avec son jour verdâtre, son bric-à-brac couvert de poussière. Et Muffa s'y trouvait, tenant le coquetier, abusant de ses doutes. À cette heure, Muffa ne doutait plus. C'était un dernier coin de dignité qui croulait. Fauchery, soulagé dans sa peur, voyant la gaieté claire de la comtesse, fut pris d'une envie de rire. Ça lui semblait comique.
« Ah, cette fois, c'est elle !»
cria la Faloise, qui ne lâchait pas une plaisanterie lorsqu'il la croyait bonne.
« Nana, là-bas, vous la voyez qui entre ?»«
Tais-toi donc, idiot !»
murmura Philippe.
« Quand je vous dis, on lui joue sa valse, parbleu, elle arrive. Et puis, elle est de la réconciliation, que diable ! Comment, vous ne voyez pas ? Elle les serre sur son cœur tous les trois, mon cousin, ma cousine et son époux, en les appelant ses petits chats. Moi, ça me retourne, ces scènes de famille. »
Estelle s'était approchée. Fauchery la complimentait, pendant que, raide dans sa robe rose, elle le regardait de son air étonné d'enfant silencieuse, en jetant des coups d'œil sur son père et sa mère. Daguenet, lui aussi, échangeait une chaude poignée de main avec le journaliste. Ils faisaient un groupe souriant. Et derrière eux, M. Venot se glissait, les couvant d'un œil béat, les enveloppant de sa douceur dévote, heureux de ses derniers abandons qui préparaient les voies de la Providence. Mais la valse déroulait toujours son balancement de rieuse volupté. C'était une reprise plus haute du plaisir battant le vieil hôtel, comme une marée montante. L'orchestre enflait les trilles de ses petites flûtes, les soupirs pâmés de ses violons. Sous le velours de Gênes, les ors et les peintures, les lustres, dégageaient une chaleur vivante, une poussière de soleil. Tandis que la foule des invités, multipliée dans les glaces, semblait s'élargir avec le murmure grandi de ses voix. Autour du salon, les couples qui passaient, les mains à la taille, parmi les sourires des femmes assises, accentuaient davantage le branle des planchers. Dans le jardin, une lueur de braise, tombée des lanternes vénitiennes, éclairait d'un lointain reflet d'incendie les ombres noires des promeneurs, cherchant un peu d'air au fond des allées. Et ce tressaillement des murs, cette nuée rouge, était comme la flambée dernière où craquait l'antique honneur brûlant aux quatre coins du logis. Les gaietés timides, alors à peine commençantes, que Fauchery, un soir d'avril, avait entendu sonner avec le son d'un cristal qui se brise, s'étaient peu à peu enhardies, affolées, jusqu'à cet éclat de fête. Maintenant, la fêlure augmentait. Elle lézardait la maison. Elle annonçait l'effondrement prochain. chez les ivrognes des faubourgs, c'est par la misère noire, le buffet sans pain, la folie de l'alcool vidant les matelas, que finissent les familles gâtées. Ici, sur l'écroulement de ces richesses, entassées et allumées d'un coup, la valse sonnait le glas d'une vieille race, pendant que Nana, invisible, épandue au-dessus du bal avec ses membres souples, décomposait ce monde, le pénétrait du ferment de son odeur flottant dans l'air chaud, sur le rythme canaille de la musique. Ce fut le soir du mariage à l'église que le comte Muffa se présenta dans la chambre de sa femme, où il n'était pas entré depuis 2 ans. La comtesse, très surprise, recula d'abord. Mais elle avait son sourire, ce sourire d'ivresse qui ne la quittait plus. Lui, très gêné, balbutiait. Alors, elle lui fit un peu de morale. D'ailleurs, ni l'un ni l'autre ne risquèrent une explication nette. C'était la religion qui voulait ce pardon mutuel. Et il fut convenu entre eux, par un accord tacite, qu'ils garderaient leur liberté. Avant de se mettre au lit, comme la comtesse paraissait hésiter encore, ils causèrent affaire. Le premier, il parla de vendre les bordes. Elle, tout de suite, consentit. Ils avaient de grands besoins. Ils partageraient. Cela acheva la réconciliation. Muffa en ressentit un véritable soulagement dans ses remords. Justement, ce jour-là, comme Nana sommeillait vers 2 heures, Zoé se permit de frapper à la porte de la chambre. Les rideaux étaient tirés, un souffle chaud entrait par une fenêtre dans la fraîcheur silencieuse du demi-jour. D'ailleurs, la jeune femme se levait maintenant, un peu faible encore. Elle ouvrit les yeux, elle demanda « Qui est-ce ?» Zoé allait répondre. Mais Daguenet, forçant l'entrée, s'annonça lui-même. Du coup, elle s'accouda sur l'oreiller et, renvoyant la femme de chambre, « Comment ? C'est toi ? Le jour qu'on te marie ? Qu'y a-t-il donc ?» Lui, surpris par l'obscurité, restait au milieu de la pièce. Cependant, il s'habituait, il avançait, en habit, cravaté et ganté de blanc. Et il répétait « Eh bien, oui, c'est moi. Tu ne te souviens pas ? » Non, elle ne se souvenait de rien. Il dut s'offrir carrément de son air de blague. « Voyons, ton courtage ! Je t'apporte les traînes de mon innocence !» Alors, comme il était au bord du lit, elle l'empoigna de ses bras nus, secouée d'un beau rire et pleurant presque, tant elle trouvait ça gentil de sa part. Ah, ce Mimi est-il drôle? Il y a pensé pourtant. Et moi qui ne savais plus. Alors, tu t'es échappé? Tu sors de l'église? C'est vrai, tu as une odeur d'encens. Mais baise-moi donc. Oh, plus fort que ça, mon Mimi. Ah, c'est peut-être la dernière fois. Dans la chambre obscure, où traînait encore une vague odeur d'éther, leur rire tendre expira. La grosse chaleur gonflait les rideaux des fenêtres. On entendait des voix d'enfants sur l'avenue. Puis, ils plaisantèrent, bousculés par l'heure. Daguenet partait tout de suite avec sa femme, après le lunch.